Vous écoutez
RMC. RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef. Thibaut
Jean-Grand. Salut tout le monde, comment ça va? Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur l'actu fort du week-end avec notre membre de la Dream Team, Maryse Evangépé. Salut Maryse.
Salut, salut.
On a des gros week-ends de sport, Maryse, ouais. De temps en temps.
Là, c'en est un.
Maryse, même toi, tu l'as suivi ce Grand Prix de Formule 1.
À toute vitesse, à toute vitesse.
Oussem est là aussi.
Salut Thibaut, bonsoir tout le monde.
Ça fait plaisir que tu passes, c'est cool.
Mais écoute, j'avais un peu de lumière dans le couloir. Je me suis dit, tu sais quoi, ouais. Ce qui paraît, Thibaut est dans les locaux à ce heure-là. Bah, je vais passer par un tour.
Bah, donne-nous le programme puisque t'es là.
La Formule 1 a rendu son verdict, tu le disais Thibaut, un nouveau champion du monde après une saison d'anthologie. Alors d'abord bravo à la Fédération Internationale qui devient donc championne du monde depuis ses bureaux avec les règlements. Ils ont fait ce qu'ils voulaient cette saison. Un titre de Alt Supre Contrôle, double clic, F4, F10, copier-coller. Voilà, en fait ils ont fait tout ce qu'ils voulaient cette saison. Et c'est plutôt eux qui ont gagné le championnat. Sinon pour tout ce qui est du sport, Esteban Ocon sera avec nous autour de 19h20. Il reviendra sur sa saison et ses objectifs pour l'année prochaine qui arrive très vite. À coup sûr. 19h35, Clément Noël qui a explosé tout le monde dans le salon de Val d'Isère. N'ayons pas peur des mots, Thibaut, il a vraiment explosé tout le monde. Il viendra partager son ressenti après le premier salon de la saison et il y a quelques semaines des JO. Et puis en fin d'émission, encore une invitée, Cléopâtre Darleux, capitaine, gardienne de l'équipe de France de handball, une équipe de France qualifiée pour les quarts de finale du mondial, mais une équipe de France qui rassure autant que Thibaut Jean-Grand avec une balle de hand dans les mains. C'est vous dire comment ça rassure.
RMC Sport Show.
Je m'en sors très bien avec le ballon ovale du handball.
T'as fait du hand un peu dans ta vie, non?
Ouais, bah, à l'école, comme tout le monde, non?
Et ben ça se voit pas.
Ouais, bah, je te restais sur le côté. Hashtag RMC Live, appli RMC le direct studio pour réagir à cette émission Formule 1, évidemment, dans un instant. Tiens, à votre avis, ce titre de Max Verstappen, s'est-il obtenu à la loyale pour l'ensemble de la saison du Grand Prix? On va en débattre dans un instant avec Paul Lafitte et Jean-Luc Roy. On a du direct ce soir également avec du rugby. Vous le savez, c'est un week-end de Champions Cup, le premier week-end de Coupe d'Europe et on a encore un club français en piste. C'est Castres qui affronte les Harlequins, les Harlequins. Bonsoir, vous êtes Templiers.
Ouais, on dit Harlequins avec l'accent. Oui, bonsoir, messieurs, dames.
Bonsoir. Ouais, moi, je préfère dire Harlequin.
C'est bien. Allez, les Harlequins, si vous voulez. Champion d'Angleterre. Hein.
Ouais. Ah, que England Champions. Tu ne donnerais pas le score, par
tout simplement. Oui, c'est vrai. Oui. 5-0. 5-0 pour le Castres Olympique. Un essai de Raisuke, le Fidjien, à la 20e minute. On joue la 31e à l'instant. Ces Harlequins, justement, ils respectent pas trop le rugby parce qu'ils ont des pénalités qui leur sont offertes face au poteau. 20 mètres, 30 mètres, ils choisissent les mêlées. Ils choisissent d'aller en touche. Et, résultat, ils sont menés par le Castres Olympique. Olympique parce qu'ils ne prennent pas les points qui se présentent devant eux. Et pour l'instant, quand même, Castres résiste parce que c'est une grosse équipe, les Harlequins, champion d'Angleterre en titre. Et là, la mêlée est dominatrice et pénalité pour les Harlequins, justement, 22 mètres à droite des poteaux. Je vous raconterai un peu plus tard s'ils ont choisi la pénalité ou s'ils ont été en touche. 31 minutes, 5-0 pour Castres.
Rapidement, j'ai vu la transformation qui n'a pas donc été transformée et tous les gestes superstitieux qu'il y a eu juste avant de tirer.
J'en ai parlé,
pourquoi faire tout ça si c'est pour rater après?
C'est symptique, c'est comme ça.
Ouais. Mais là, c'est plus d'éthique. C'est une maladie.
C'est une routine. En athlétisme, on a ça tout le temps. Moi, ça me choque pas du tout.
C'est vrai.
Ah oui.
Il a pris 5 minutes.
Regarde, amuse-toi, regardez un sauteur en hauteur. Tu finis, sincèrement, t'es bourré de tics rien qu'en le regardant.
Ouais. Vous vous rappelez pas de Dan Biggar, anglais, les mains sur les épaules.
C'est lui qui a commencé, oui, bien sûr.
C'est un peu la danse, comment on appelle ça, là, déjà là...
Le Macarena.
Non, on est déjà sorti, ça y a un quart d'heure, la Macarena. Justement, en parlant de ces gestes-là. Non, un truc un peu plus récent, là, vous savez, avec les jeunes qui se passaient la main au-dessus de la tête là, et sur les épaules.
Ah oui,
la tectonique.
Voilà. Ouais. Ah, faut que je m'y mette.
Un peu plus récent.
Ah, peut-être le premier essai, Will Aina. Essai en coin des Harlequins, des Harlequins comme vous voulez, ça fait essai quand même. Essai en coin, ils n'avaient pas choisi de tenter la pénalité, ils avaient été en touche et derrière un point de fixation et dans le fermé, Louis Laina, le fils de l'ancien demi d'ouverture de l'équipe d'Australie, et bien son fils joue ailier en Angleterre avec les Harlequins et il marque donc cet essai, égalisation et transformation à venir. On le disait, du jeune demi d'ouverture de l'Angleterre maintenant, il s'appelle Marcus Smith, il a 22 ans, il va essayer de transformer en coin cet essai. 5 partout, on joue bientôt la 33e minute, peut-être les Anglais qui prennent l'avantage.
Merci Wilfried, et tiens, je te donne ça juste pour toi, pour tes prochaines soirées. La tectonique, cette danse récente dont tu nous parles.
C'était il y a 10-15 ans,
ouais, c'est 2008. Mais c'est
j'ai beaucoup aimé la description. Ouais. Tu sais, il se passait la main sur
vous. Mais vous avez compris.
Merci Wilfried, on se retrouve un peu plus tard pour l'évolution. ce match. Page rugby dans le Sport Show vers 19h30 avec Jeff Paturo. 19h05, Netflix en avait fait une série bien plus intéressante que les Grands Prix en eux-mêmes ces dernières années. Mais cette saison, un challenger s'est montré à la hauteur du roi Hamilton et au final, le dénouement a été plus spectaculaire que la série. Un dernier tour d'anthologie.
Dernier tour de course de cette dernière saison de Vembo avec Lewis Hamilton et qui est en tête et dans son sillage blotti quasiment dans son aileron arrière. Max Verstappen avec ses pneus saute, il va bénéficier évidemment du DRS. On va suivre la relance. Il est dans le DRS, il va passer. Max Verstappen, il va passer avec le DRS. Il fait l'intérieur et les deux pilotes qui se touchent et Max Verstappen qui passe. Max Verstappen qui est le leader de ce Grand Prix dans le dernier tour. Il va s'envoler vers son premier titre mondial à moins que Lewis Hamilton ne bénéficie encore une fois du DRS. 4 dixièmes de seconde entre les deux pilotes et Lewis Hamilton qui va tout tenter pour repasser devant le pilote Red Bull. Chaussé de pneumatiques tendre, Lewis Hamilton qui ne peut rien dans cette première ligne droite. Nous sommes dans le virage 7 et la McLaren, la Red Bull qui est en train de glisser avec Lewis Hamilton. Jean-Luc qui va tout tenter dans cette dernière ligne droite.
Ah ben là c'est tout se joue, tout le titre se joue sur ce dernier tour effectivement entre les deux hommes au côté de route, mais c'est évident que l'avantage pneumatique dont dispose Verstappen est en un bateau majeur, même si le DRS actionné par la Mercedes dans la ligne droite peut être également décisif.
Bon c'est terminé, Max Verstappen est en train de s'envoler à coup de dixième de seconde, quasiment une seconde d'avance sur Lewis Hamilton qui va tout perdre dans ce dernier tour de course. Max Verstappen va devenir le 34e champion du monde de Formule 1 de l'histoire, le pilote Red Bull à 24 ans. Quelle science du pilotage avec évidemment eh bien, une arrivée triomphale pour eh bien, le dernier virage et la victoire de Max Verstappen qui devient donc champion du monde.
La une du RMC Sport Show.
Thibaut, t'as des nouvelles de Paul Laffitte?
On va lui demander. Paul Laffitte, il est de retour. Il était au commentaire de cette course avec Jean-Luc Roy, la Dream Team Formule 1 est là ce soir. Salut les gars. Alors,
rebonsoir à tous. Salut à Marie. J'ai inquiété pour vous les gars.
C'était toi la voix.
C'est ça.
Ouais. Mais on t'avait coincé les mains dans une souricière. Il faut s'entraîner, il faut faire du yodel, du chant, des choses comme ça.
Il nous a fait vivre ça.
C'était magnifique.
C'était magnifique. Pas les mains, Marie. Ce dernier tour, Paul Laffitte, Jean-Luc Roy. On en parlera encore dans 50 ans, vous pensez, où là on est à chaud et on est encore un peu sur le coup de l'émotion, où on a assisté à un truc d'assez unique.
À Jean-Luc, hein, la priorité à Jean-Luc.
Merci. Ben écoute, Paul, on l'a vécu ensemble, on l'a tous vécu ensemble. Non, c'était magnifique. Bien sûr qu'on va s'en souvenir très longtemps de ce dernier tour, qui est d'ores et déjà absolument historique. Effectivement, il a fallu qu'on leur permette de se battre. Et heureusement, dans ce sens-là, on va y venir évidemment, que la direction de course très tardivement l'a permis. Alors la polémique, on va en parler dans un instant aussi, elle vient après, parce qu'une mauvaise décision initiale avait été prise. Enfin, fort heureusement, on n'a pas eu une arrivée sous drapeau jaune. On a eu ce final d'anthologie. Les pilotes ont repris le volant, c'est le cas de le dire. C'est eux qui se sont battus sur la piste et c'est formidable d'avoir un titre qui se décide de cette manière après une saison aussi longue. Une des plus longues saisons de l'histoire de la Formule 1, de surcroît. Hein. Deux hommes dos à dos, il fallait terminer devant l'autre. 2 secondes, 256, et c'est pas seulement après 22 Grands Prix. C'est formidable.
Paul, entrons dans le vif du sujet, dans le détail de ce dernier Grand Prix. Dès le premier virage, les choses étaient mises au clair entre Verstappen et Hamilton.
Au premier virage, on rappelle que Lewis Hamilton prend la tête devant Verstappen qui avait quand même signé la pole position, qui tente évidemment de reprendre la première place à l'issue de la première longue ligne droite du circuit. Les deux hommes sont d'ailleurs à deux doigts de s'accrocher, mais le Britannique court-circuite la chicane pour éviter la collision. Pas d'enquête pour ce fait de course. Hamilton, s'échappe ensuite jusqu'au premier changement de pneu. Là, Verstappen rentre le premier au stand, suivi un tour plus tard par le pilote britannique et qui évidemment calque sa course sur celle du Néerlandais. Et là, l'Anglais ressort deuxième derrière Sergio Pérez, le coéquipier de Max Verstappen, qui va faire évidemment le jeu de Max la menace en se battant à coup de DRS dans les lignes droites pour maintenir sa position. Ces manœuvres vont permettre justement à Verstappen de revenir dans le sillage d'Hamilton, mais le Britannique va encore une fois reprendre sa marche en avant jusqu'à ce qu'un virtuel safety car ne change la donne, avec Verstappen de nouveau dans les stands pour un changement de pneu. Ces montes fraîches par rapport aux pneus usés d'Hamilton permettent à Verstappen de revenir sur l'anglais, mais pas suffisamment évidemment pour le doubler. Et c'est alors que se produit l'impensable, le crash de la Williams de Latifi et la sortie du safety car. C'était à 6 tours de l'arrivée de ce Grand Prix. Les monoplaces vont donc disputer 4 tours derrière la voiture de sécurité. Et là, coup de génie coup de génie de Red Bull et de Verstappen. Il rentre dans les stands, il change de pneus, des pneus soft évidemment, pour peut-être les derniers tours de course. Et à l'issue, eh bien, du 58e et dernier tour de course, eh bien, Verstappen dépose Hamilton pour gagner le Grand Prix et gagner son premier titre mondial. Un scénario de dingue.
Vos messages sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC le direct studio, Lamar qui est peut-être légèrement pro Hamilton, il dit Hamilton l'a écrasé, il y a rien que Max a rien fait arrêter vraiment Anthologie, c'est la remontée d'Hamilton au Brésil qui était une remontée d'Anthologie. Bon voilà, il y a beaucoup de messages, on va en parler dans un instant.
Hamilton a écrasé Verstappen.
Oui, a priori, c'est l'idée en tout cas de Lamar.
C'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés et de fans de Formule 1 qui décident de choisir un camp.
Ça opposait vraiment les deux pilotes. Il y avait les pro Verstappen, les pro Hamilton.
C'est exactement comme comme Federer Joko. Les uns détestent l'autre et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des pros complètement Verstappen et des pros Hamilton et ils n'en démordent pas.
Est-ce qu'il faut signaler, Jean-Luc, peut-être pour calmer tout le monde dans les deux clans, c'est la classe de Lewis Hamilton et de son clan juste après la course. Il a réagi vraiment champion battu, mais champion quand même.
Bah écoute, oui, c'est bien qu'effectivement, une fois que la pression est un petit peu retombée, même s'il y a, on l'a dit, cette réclamation qui court, mais j'espère qu'effectivement, on va pas changer le résultat de ce Grand Prix qui a été acquis sur la piste. Et c'est vrai que Lewis Hamilton, la déception passée, elle a été dure à avaler parce qu'on l'a vu dans sa voiture, il était prostré véritablement.
Oui,
il n'a pas compris ce qui s'était passé le temps qu'il récupère. Verstappen, lui, certainement, mais il voulait pas le faire en public, a pleuré, je pense, dans sa voiture. Il l'a dit dans le dernier tour, il a repensé à tout ce qu'il avait dû subir pour en arriver là, et son père Jos l'a élevé à la dure, à la très dure, si on veut une belle histoire. Là aussi, il en a bavé, c'est le moins qu'on puisse dire. Verstappen, et bien Hamilton, avec ses 7 titres de champion du monde, bien sûr qu'il aurait adoré, ce sera peut-être pour l'an prochain, décrocher un 8e, mais bon, il a 103 victoires, nous l'avons dit, 103 pôles, et bien là aussi la jeunesse fougueuse est là pour bousculer les idoles, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui.
Et la poignée de main franche et sportive de Lewis Hamilton à Verstappen après l'arrivée, on va l'écouter, Lewis Hamilton en conférence de presse quelques minutes après l'arrivée.
A big congratulations to Max and to his team.
Félicitations à Max et à son équipe. Ils ont fait un travail incroyable cette année. Tout le monde dans mon équipe a également fait un énorme travail toute l'année, ici et à l'usine. Je suis tellement fier d'eux. Je suis chanceux et reconnaissant de faire partie de cette équipe. On a tout donné dans cette dernière partie de saison. On n'a rien lâché, jamais, et c'est le plus important.
Voilà, fair play. Il y a eu bagarre toute la saison. Ça s'arrête, le fair play de Lewis Hamilton. On va écouter tout de suite le champion du monde, Max Verstappen, également en conférence de presse quelques minutes après l'arrivée.
C'est incroyable. Pendant toute la course, j'ai continué à me battre jusqu'à cette opportunité dans le dernier tour. Je n'en reviens pas. J'en ai des crampes, mais vraiment, c'est fou.
Paul, quand il y a une réclamation, c'est la course qui s'autosaisit, c'est l'organisation ou c'est un clan qui pose une réclamation?
C'est clairement le clan Mercedes via Toto Wolff, hein, évidemment, qui
donc,
a posé la réclamation.
Donc c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que fair play certes, mais quand même des réclamations. Ouais,
c'est un peu le jeu aussi, Marie, c'est ce que fait
bien
aussi
sûr,
Red Bull dès le premier virage.
C'est pas une critique, je dis juste qu'on est en train de parler du fair play d'Hamilton. Oui. C'est un animal de communication, il sait très bien le faire. Il est classe, hein, c'est bien sûr. Mais il ne peut pas faire autrement, sinon il passerait pour un mauvais perdant. Mais il n'empêche qu'on va quand même essayer d'aller voir s'il n'y a pas moyen de récupérer quelque chose.
Oui, Maryse, comme le précisait Jean-Luc il y a quelques instants, le fair play d'Hamilton, ce titre s'est joué sur la piste et on voit mal comment les commissaires de course, et notamment Michael Masi,
ont été décriés
durant toute la saison par ses décisions, notamment souvent en faveur de Mercedes, pourraient bien annuler le titre de Verstappen et laisser gagner.
Oh, ça serait une énorme erreur parce que je crois qu'on n'a jamais eu un final aussi beau et c'est une publicité pour la Formule 1 formidable ce qui s'est passé là. Tout le monde suivait. Moi j'étais cet après-midi en compétition d'athlétisme et les entraîneurs tranquillement, alors que leurs athlètes étaient en train de sauter à la perche machin, étaient là vas-y continue, et ils étaient sur leur téléphone portable et ils regardaient la Formule 1. Donc c'était vraiment l'événement et au-delà de l'événement de cette course là, c'est toute la saison qui a été passionnant.
Je voulais
c'est vraiment. On retrouve ces espèces de grandes confrontations.
Exactement.
Bien sûr qu'Hamilton est un immense champion, mais tu es encore plus grand quand tu as un adversaire à ta hauteur.
Donc, je voulais revenir à ce que tu dis et de demander ce que pense Jean-Luc. Quand on prend un peu de recul et qu'on analyse la saison, les coups bas, si on peut appeler ça des coups bas, ont été vus des deux côtés. Ça se rendait coup pour coup. La FIA a pris des décisions pour une écurie et puis pour l'autre. Et quand on regarde bien, on se dit, en fait, finalement, match nul sur tout ce qui s'est passé autour de la piste.
Oui, tout à fait, je suis assez d'accord avec ça. Fort heureusement, en général, ça s'équilibre et j'allais dire c'est le meilleur qui gagne, hein. C'est toujours un petit peu comme ça. Ça n'aurait pas été illégitime d'ailleurs qu'Hamilton l'emporte, hein, pour être tout à fait clair, même si j'aime à rappeler quand même que le tournant du championnat, ça a été les deux Grands Prix de Grande-Bretagne, une nouvelle fois, et de Hongrie, où coup sur coup, Verstappen a été viré deux fois, ouais. Une fois par Hamilton, une fois par Bottas. Donc c'est vrai que la cassure, elle est venue de là, ça a remis Hamilton en piste. Ensuite, il y a eu quand même encore deux victoires de Verstappen avant celle-ci, naturellement aux États-Unis et au Mexique, et puis la série fantastique de Lewis Hamilton avec ses trois victoires. Alors il a bénéficié effectivement, je le dis aussi, la Mercedes était supérieure à la Red Bull Honda, il faut le rappeler, il faut le redire, d'une manière globale sur la saison elle était meilleure. Alors il y a eu des hauts et il y a eu des bas, ce nouveau moteur a été un coup de boost absolument formidable, et c'est la raison pour laquelle Verstappen était obligé d'aller au-delà des limites, parce qu'à la régulière il était battu, hein. C'est pour ça aussi, ouais, d'ailleurs, que Red Bull Honda a dû prendre des décisions audacieuses au moment des neutralisations, en disant si on reste dans la normale, si on calque nous notre attitude sur celle de Mercedes, on a perdu, on doit être audacieux, et la fortune sourit heureusement toujours aux audacieux.
Il est 19h16, vous êtes sur RMC, c'est la mi-temps rugby entre Castres et les Harlequins, 11-7 pour Castres à la pause. On retrouvera Wilfried Templier dans quelques minutes pour la deuxième période. Le RMC Sport Show est là en direct jusqu'à 20h avec Marie-Zévan GP, avec la Dream Team Formule 1, pour une grosse demi-heure de débrief. Paul Lafitte, Jean-Luc Croix, vos messages nombreux sur le hashtag RMC Live, l'appli RMC. Paul, Jean-Luc, même Maryse, avec un peu plus de hauteur.
Comment ça, même Maryse?
Même Maryse qui n'aime pas la Formule 1 à la base. Est-ce que c'est une rivalité qui commence à votre avis? Est-ce que l'année prochaine, on part sur une vraie rivalité et qu'on va retrouver longtemps?
Thibaut, vraisemblablement, Lewis Hamilton et Max Verstappen resteront les meilleurs pilotes du plateau en 2022, même si on parlera un petit peu plus tard, des nouveaux règlements qui vont modifier évidemment les monoplaces. Ils resteront les meilleurs dans les meilleures écuries. Donc je ne sais pas si ce scénario est appelé à durer. En tout cas, Lewis Hamilton n'est pas prêt de s'arrêter malgré ses quasiment 37 printemps face au jeune loup qui est Max Verstappen. On rappelle son âge, hein, 24 ans, le plus jeune pilote à avoir bien disputé un Grand Prix, le plus jeune pilote à avoir gagné un Grand Prix de Formule 1. Il n'est pas le plus jeune vainqueur d'un championnat du monde. C'est Sébastien Vettel qui s'était imposé à 23 ans. Mais en tout cas, cette rivalité est peut-être là pour au moins 2 à 3 ans jusqu'à la retraite du pilote britannique.
Mais je me recule un tout petit peu. C'est pas une rivalité qui commence. Elle a déjà, elle continue, parce que on était en plein dans la rivalité cette année, hein. Et c'était très très net. Enfin, on se souvient quand même de certaines images fortes de la Red Bull de Verstappen montant sur la tête d'Hamilton. Il y a eu quand même des moments assez intenses dans cette saison.
Jean-Luc, sur le duel.
Oui, écoute, de toute façon, on dit souvent les mêmes choses, c'est-à-dire qu'un champion qui domine outrageusement son sport, c'est magnifique, mais on finit par s'ennuyer un peu, soyons crus, soyons clairs. Or, le changement de réglementation sur lequel on pourrait épiloguer pendant très longtemps, en 2014, a quelque part été mieux surmonté, on va dire, par Mercedes, de manière écrasante, puisqu'ils ont décroché, on va le rappeler, leur 8e titre de champion du monde constructeur, ouais. Et puis les titres n'ont pas échappé aux pilotes Mercedes. Quand c'était pas Hamilton, et bien ça a été Rosberg en 2016. Donc là, encore une fois, c'est pas une question d'être toujours pour le petit poussé face David contre Goliath, c'est pas la question. Mais il faut bien que les cycles se terminent, hein. Il y a eu des moments où Renault était dominateur, il y a des moments où Ferrari a été dominateur, etc. Et bien là, moi je suis ravi encore une fois que Verstappen ait eu les moyens techniques, simplement les moyens techniques de se battre par rapport à Hamilton. Et je suis désolé, mais c'est mon opinion et on a le droit de ne pas la partager.
On a bien senti que t'étais ravi, Jean-Luc, on a bien senti que t'étais ravi.
Non, mais je dis simplement que il a dû surpiloter pour parvenir à surmonter le handicap technique.
Attention de ne pas nous servir aussi que quelque part Hamilton est un champion rabais, Jean-Luc.
Pas du tout.
Le petit poussé, Goliath, David. Il n'y a peut-être pas autant de différence que ça quand même.
Ah non, mais attends, j'ai tellement de fois rendu hommage, comment ne pas rendre hommage à Lewis Hamilton? 7 titres, encore une fois, 103 pôles, 103 victoires.
Ah oui, donc en fait, tu retournes ta veste, quoi.
Non, mais pas du tout.
T'as un nouveau champion, voilà. Tu
non, je dis simplement que sur cette saison, et je le répète, si Verstappen n'est pas sorti deux fois, une fois par Hamilton, une fois par Bottas, bah, il est devant, vous êtes d'accord avec moi? Bon, c'est un décompte de points. Et là, c'est pas la malchance, il est sorti par ses adversaires. Il a pas du tout épilogué la dessus, lui. Il a rien dit. Il s'est tu et il a répondu sur la piste.
Alors, Jean-Luc, on le disait tout à l'heure, le combat est terminé sur la piste. En tout cas, Mercedes a posé une réclamation. Les écuries sont entendues. À l'heure qu'il est, là, 19h20, il n'y a pas encore de décision de la FIA. On peut réellement imaginer, Jean-Luc, une décision d'importance de la FIA ce soir. Ça paraît quand même
cool. Non, je ne l'espère pas. Alors, il y a deux réclamations. Ouais. La première, pour la faire courte, c'est parce que, soi-disant, Verstappen, sous régime de safety car, s'est porté au niveau d'Hamilton, il aurait de 2 cm avec le museau dépassé la Mercedes d'Hamilton qui était donc leader. Bon, ça c'est ridicule, je pense que d'un revers demain on va l'annuler. Maintenant, ce qui est plus grave, et plus grave surtout pour Michael Messi, le directeur de course qui s'est encore pris les pieds dans le tapis, lui décidément il en rate pas beaucoup, c'est que effectivement il aurait dû demander à tous les pilotes qui étaient à un tour sous régime de safety car de repasser devant. Or il a demandé aux 5 pilotes qui se trouvaient entre Hamilton et Verstappen de le faire et pas aux 3 autres derrière. Donc c'est un point du règlement qu'invoque Mercedes. Ben, j'espère évidemment que là aussi on va pas déclasser un champion du monde pour ça, parce que le directeur de course n'a pas respecté le propre règlement de la FIA, ce qui est quand même assez grave.
C'est terrible. C'est vrai que Verstappen, Hamilton, ils ont fait une bonne saison, mais la FIA pour l'année prochaine
va arriver un peu le niveau. Ils ont fait une saison nulle.
Et puis même pour le grand public, le grand public maintenant qui est client de la Formule 1, qui prenne un peu de recul au sein de la FIA et qui franchement, qui simplifie un peu les règles.
Il y en a un autre qui a fait une bonne saison, une très bonne saison. C'est un pilote français, Esteban Ocon. On a encore eu une victoire française après Gasly l'année dernière. Ocon s'est imposé au mois d'août et il nous fait le plaisir d'être dans le RMC Sport Show ce soir. Bonsoir Esteban.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être ce soir sur RMC. Félicitations pour cette course. On va revenir sur toi, sur ton avenir, cette saison incroyable aussi. Mais est-ce que déjà Esteban, tu as conscience d'avoir participé à une course de légende aujourd'hui?
Oui, je crois que en tout cas, pour ma part, c'était un plaisir d'y avoir participé. Forcément, pas pour le titre, c'est ce que je veux accomplir par le futur, et ça donne envie d'en faire partie. Mais en tout cas, pour nous, pour notre part, c'était une fin de saison qui était forte. Mais je pense que le fin mot, d'aujourd'hui, c'est bravo à Max, et on a vu du très beau pilotage aujourd'hui.
Esteban, un petit mot donc sur le nouveau champion du monde, Max Verstappen. Un beau champion, selon toi?
Oui, je pense que l'agressivité qu'il a montré aujourd'hui, c'est ce qu'il a montré toute la saison, c'est ce qui lui a apporté cette victoire au final, et puis ce titre. C'est pousser les limites forcément de ce qui est possible de faire, mais ça a fonctionné. Donc aujourd'hui ils ont gagné, donc c'est mérité.
Jean-Luc Roy, ta question pour Esteban Ocon.
Oui, félicitations à Esteban. Si j'ai bien compté, ça fait 14 fois dans les points cette saison 2021. Donc c'est génial. D'autant qu'avec Fernando, et vous avez réalisé un tir groupé fantastique, vous avez permis à Alpine, dont c'est la première année en F1, de se classer cinquième. Donc déjà, félicitations pour ça. Et puis bien évidemment, pour ta victoire, à toi, ta première victoire en Formule 1 au Grand Prix de Hongrie. Ça doit être une émotion particulière.
Oui, c'est clair, c'était beaucoup d'émotions cette saison. Je pense qu'on les a toutes vécues, mais c'était un plaisir aussi de les vivre. On est passé par des victoires, par des moments difficiles, par de la frustration aussi, comme en Arabie Saoudite. Mais comme je l'ai dit, il faut les vivre ces moments-là, et j'étais très content de faire partie de tout ça. Maintenant, c'est une année de préparation pour la suite. Je pense que d'avoir tiré le maximum de la voiture comme on a fait maintenant, c'était très très bon et très très fort sur la fin d'année. Donc ça nous prépare bien pour le challenge pour le futur.
Justement, Esteban, tu parles de la suite. Il y a un gros changement de réglementation. Les voitures seront complètement différentes la saison prochaine. À quoi tu t'attends? Est-ce que avec cette nouvelle réglementation, peut-être Alpine et donc toi peuvent espérer être plus haut encore que cette déjà saison prometteuse?
C'est le but. En tout cas, on travaille pour se rapprocher des top teams, pour être aux avant-postes par le futur. Moi, voilà, ce que je veux, c'est gagner. Hein. Peu importe de participer, ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà, ça donne envie de voir bah, Max et Lewis se battre pour le titre. Mais voilà, nous aussi, on va encore partir.
Esteban, on a compris, toi, la mentalité Pierre de Coubertin, c'est pas trop ton truc. On va le dire clairement. Pour quand et à quel niveau tu places le futur titre de championnat du monde qui va arriver dans ta carrière? On va se projeter. Est-ce que ça sera d'ici 2, 3, 4 ans?
C'est difficile à se projeter. Ça dépendra vraiment du travail, voilà, que Enstone et Viri Fation va fournir, hein, sur le début d'année. Forcément, on fait partie de tout ça. On développe la voiture au simulateur. On aide, voilà, les ingénieurs et on les guide du mieux qu'on peut. On va travailler jusqu'au 22-23 décembre. Donc, il va pas y avoir presque de Noël pour nous, juste une journée. Les gars vont continuer à bosser énormément. On a des essais aussi mardi et mercredi avec les pneus en 18 pouces là. Donc ça, voilà, on n'arrête jamais de bosser. Et on sait qu'on a une chance énorme en fait avec ce nouveau règlement pour repartir à zéro et avoir voilà une bonne base de voiture. Donc j'espère qu'on sera aux avant-postes, mais on peut pas se projeter. En tout cas, on y met tout ce qu'on peut et ça, je peux vous en assurer.
Esteban Ocon, le pilote alpine, est dans le RMC Sport Show ce soir. Merci encore Esteban, on va pas te retenir longtemps. On sait que voilà, la saison se termine, il y a beaucoup de choses pour toi. Juste, encore une ou deux questions. Tu parlais déjà d'essai mardi. Il y aura quand même des vacances. Quand on est pilote de F1, on peut couper un peu au fait. Comment ça se passe là, dans les prochaines semaines pour toi?
Alors non, cette année, il n'y a pas de coupure. Wow. En fait, on va voilà, donc avoir les essais encore... le mardi, donc ça sera à peu près 15 ou 16 décembre. Après, c'est direction Paris pour un petit peu, pour voilà beaucoup d'événements médias, etc. Et après, on va passer le 20, le 21, le 22 à l'usine à Enstone pour travailler sur la voiture de l'année prochaine. Et puis, s'il y a besoin, voilà, on reste encore hein, jusqu'au 23 au soir. On tire jusqu'au maximum, forcément, pour laisser quand même les gars avoir un petit peu de Noël, mais on sait, voilà, la chance qu'on a, comme je l'ai dit, et on veut pas, voilà, se rater sur cette année prochaine.
Et oui, pas de vacances. Et en plus, pour aller chercher le ballon d'or l'année prochaine, donc ça va être du bon.
On a vu la photo, Esteban, on l'a vu la photo.
Ouais, magnifique photo où tu posais avec le ballon d'or.
Merci.
T'as dû le remettre finalement à Léo Messi, quand même, incroyable.
Oui, j'avais pas envie de lui redonner, mais j'ai dû lui donner. Il le mérite plus que moi.
Merci, Esteban Ocon, d'avoir pris quelques minutes pour passer dans le RMC Sport Show ce soir. Félicitations pour la saison. Et puis, on te suit avec grand plaisir une nouvelle fois l'année prochaine. À bientôt Esteban.
Merci, à bientôt.
Paul Lafitte, avant de te libérer, toi aussi, comme on a libéré Esteban à l'instant, rapidement sur
le nouveau... messieurs, avec vous.
Tu peux rester, on va parler de rugby, de ski, de ce que tu veux après. Rapidement sur les règlements, t'en parlais, Jean-Luc en parlait, ça va beaucoup changer la saison prochaine.
Oui, ça va évoluer, le nouveau règlement prévoit l'installation de diffuseurs, des sortes de gros tubes sous les monoplaces, OSEM, pour canaliser l'air et réduire la perte à la pluie dans le sillage bien d'une voiture qui vous précède. Autant dire que ce sont des règlements visant à relancer un petit peu le suspense et à permettre justement à ces monoplaces de se doubler, car on sait que lorsqu'une monoplace aujourd'hui suit celle qui la précède, avec les perturbations aérodynamiques, c'est assez difficile, les pneus chauffent, les freins s'abîment, et donc l'intérêt de la course est moindre avec ces changements-là, et les pneus aussi, Esteban Ocon le disait dans cette interview, avec des pneus de 18 pouces, eh bien ce sera encore un petit peu plus spectaculaire, avec des voitures beaucoup plus basses, beaucoup plus larges.
Les 18 pouces, comme sur ta Twingo. C'est quoi la saison, premier Grand Prix
Le 18, 19 et 20 mars prochain, ce sera à Bahreïn, donc pour le début de cette nouvelle saison de Formule 1.
On a hâte, on a hâte que tout ça recommence. Merci beaucoup, Paul Lafitte.
Merci
Jean-Froid. Merci pour cette saison qu'on a vécue ensemble et on a hâte de vous retrouver tout ce F1 Circus l'année prochaine sur RMC. 19h28, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Maurice Evans GP, bien sûr, avec le rugby, la deuxième période de Castres Harlequins Queens dans quelques instants. Et d'ailleurs, on fera sur le rugby où c'est un. Il y a beaucoup de clubs français.
Les bons élèves, voilà, les mauvais élèves.
Et notre invité, Clément Noël, vainqueur aujourd'hui à Val d'Isère, il sera avec nous dans un instant. À tout de suite.
RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grande.
Et Marie Devant GP, comme tous les dimanches, on est là en direct jusqu'à 20h. Votre émission Omnisport du dimanche soir, le meilleur du week-end dans quelques minutes. Rugby après ce premier week-end de Champions Cup qui s'achève. D'ailleurs, on fera un point dans quelques instants. Bon, tiens, on va y aller rapidement. Wilfried Templier, Castres, Harlequins, première journée. C'est reparti en deuxième période.
Ouais, c'est reparti depuis un peu plus de 3 minutes. Castres est devant à la pause. On s'était quitté tout à l'heure sur un essai des Anglais de Laina, transformé par Smith. Smith et les Anglais qui prenaient l'avantage 7-5 et deux pénalités d'Urda Pileta. Vraiment, les Castrés s'accrochent et sont là. Et donc, deux pénalités d'Urda Pileta ont permis aux Castrés d'être devant 11-7. Et Marcus Smith, le nouvel ouverture international anglais, qui a loupé la dernière pénalité avant la pause. Donc, 11-7, 4 petits points d'avance pour les Castrés qui peuvent y croire quand même face aux champions d'Angleterre en titre. Alors que les Castrés ont changé 13 de leurs 15 titulaires qui avaient battu le Racing la semaine dernière. Eh bien, ils sont là. Ils sont là quand même. L'effectif s'est étoffé un peu cette année. On verra si ça tient toute cette deuxième mi-temps. 4 minutes 30 de jeu. J'entends ton. Mon cher Thibaut, 4 minutes 30 de jeu. C'est ton fameux d'ailleurs.
Mon Wilfried.
11-7. Ouais. On dirait une grand-mère. 11-7.
Ouais, la grand-mère qui disait maintenant faut se taire, Wilfried. Merci Wilfried. À tout à l'heure, évidemment, pour la suite de ce match. On sera avec Jeff Patureau pour l'analyse, les bons points, mauvais points de ce week-end de rugby. Clément Noël, vainqueur du slalom de Val d'Isère, sera avec nous dans un instant. Le foot également, mais d'abord, on parlait de Formule 1. L'événement de ce dimanche, Oussem, info de dernière minute, justement.
Exactement. La première réclamation a été rejetée pour Mercedes. C'est la réclamation qui a été portée sur le dépassement de Max Verstappen. Ça a été refusé par la FIA. Il reste encore une réclamation à rentrer en compte, c'est celle de la modification du régime de la safety car par Michael Masi, donc directeur de la course. Et puis après, peut-être qu'ils vont aussi porter réclamation contre la température ouais, dans le pays, à Abu Dhabi. Peut-être
la couleur des chaussettes aussi, de Max Verstappen aussi.
Il en reste encore quelques-unes.
19h35, dans 1h10 sur RMC, la clôture de la 18e journée de Ligue 1, Paris Saint-Germain-Monaco.
RMC Sport Show,
la minute foot.
Et qui dit Paris Saint-Germain dit Loïc Tanzi en direct depuis le Parc des Princes. Salut Loïc.
Salut à tous.
Loïc, le Paris Saint-Germain qui reçoit Monaco. Monaco, ouais, qui est mieux invaincu depuis le 31 octobre. Quels sont les enjeux de la soirée?
L'enjeu principal pour le Paris Saint-Germain, c'est de continuer à faire la course en tête largement en Ligue 1. 10 points d'avance après la victoire de l'Olympique de Marseille qui est passé deuxième de Ligue 1. Donc quoi qu'il arrive, et largement, le PSG sera champion d'automne en Ligue 1. Et donc l'enjeu, au-delà du classement, c'est d'essayer de faire un match sur 90 minutes. C'est ce qu'a dit hier Mauricio Pochettino en conférence de presse. Après la bonne prestation des Parisiens en milieu de semaine face à Bruges en Ligue des Champions, ils l'ont porté ici même au Parc des Princes. Est-ce qu'on va enfin voir ce Paris Saint-Germain sur 90 minutes réussir à faire un bon match contre Bruges? C'était une bonne mi-temps, puis un début de deuxième mi-temps un peu difficile, et puis une fin de match un peu meilleure. On attend des Parisiens qui sont en progrès, selon l'entraîneur du PSG, de montrer leur progrès un peu plus largement sur la durée du rencontre maintenant.
Merci Loïc, on revient te voir avec Jeannot Séguier dans quelques minutes pour les compositions d'équipe de ce PSG Monaco.
19h36, le ski français en forme. Le week-end dernier, Hussein obtenait son flocon à l'Alpe d'Huez. Et aujourd'hui, Clément Noël, surtout, a gagné le slalom à Val d'Isère.
C'est parti pour Clément Noël dans quelques instants. Je vous le disais, 81 centièmes d'avance pour le skieur de 23 ans, pensionnaire du club des sports de Val d'Isère, qui, Sylvain Aubin, eh bien, devrait parvenir à allumer du vert. C'est lui le meilleur slalomeur de la planète. Voilà. 1-0-3 au premier intermédiaire. C'est énorme ce qu'est en train de faire Clément Noël. 1-0-3 d'avance au premier intermédiaire sur le Suédois. C'est énorme ce qu'est en train de faire Clément Noël, qui est en train d'assommer Belverde, qui est en train d'assommer la concurrence et qui va s'imposer dans quelques instants ici à Val d'Isère. La victoire de Clément Noël. 1 seconde et 40 centièmes devant son dauphin Christopher Jacobsen. C'est monstrueux ce qu'a fait Clément Noël. Sa 9e victoire en Coupe du Monde, la première de sa carrière ici à Val d'Isère, la 3e en France pour le premier slalom de la saison. Clément Noël s'annonce comme le patron.
La deuxième période du RMC Sport Show.
C'était cet après-midi en direct sur RMC avec Arnaud Souk et Sébastien Amier. Bonsoir Clément Noël.
Bonsoir à tous.
Merci beaucoup d'être en direct sur RMC ce soir. Félicitations Clément, tu colles, on l'a entendu. 1 seconde 40 au deuxième, le Suédois Jacobsen. Tu gagnes les deux manches, t'es pas dans la même catégorie que tous les autres là.
Ouais, je sais pas, non, on est tous dans la même catégorie, ça c'est sûr. Après, aujourd'hui ça a été une super course pour moi. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive de gagner deux manches. C'est pas quelque chose qui arrive chaque week-end, ça veut dire que j'ai fait une course complète. J'étais vraiment content de ma première manche, et puis la deuxième manche, voilà, c'était un peu plus difficile à gérer, un petit peu plus de pression. On est sur la première course de la saison en France à Val d'Isère, donc voilà, j'étais pas 100% confiant en moi, mais je me disais qu'il n'y avait pas de raison que ça fasse pas. J'étais plutôt en forme ces derniers temps, et du coup vraiment content de passer la ligne et de voir du vert autant d'avance et tout. Ça a été un grand grand moment. Et
Clément, tu parlais de cette course donc à domicile un peu, c'est les Val d'Isère, c'est la maison, c'est en France. Ça t'a mis un peu une pression parce que tu disais que t'étais pas très confiant?
Non, c'est pas que j'étais pas très confiant, mais c'est qu'on n'est jamais sûr à 100% d'aller gagner la course quand on est au départ de la deuxième manche. Mais j'étais plutôt bien dans ma tête. Aujourd'hui, je me sentais bien, forcément un petit peu de stress, mais c'est aussi dû au fait que c'est la première course de la saison et qu'on sait pas trop où on en est, et puis voilà, il fallait un peu se situer, quoi.
Maryse Evangépé.
Bonjour. On est effectivement sur la première course de la saison avec des échéances qui arrivent très vite, à savoir les Jeux Olympiques. Est-ce que on se projette déjà ou justement chaque course est plus une préparation et l'objectif, on est déjà focalisé sur l'échéance olympique?
Bah, aucun des deux, je dirais, pour ma part, parce que en fait, pour les Jeux Olympiques, c'est un objectif, mais je m'y projette pas. Je me l'imagine pas dans un coin de ma tête parce que quand j'y serai, je serai focalisé là-dessus. Mais pour l'instant,
est-ce que c'est pas la peine de se mettre une pression inutile?
Bah déjà, c'est pas la peine de trop penser à ça pour pas se mettre la pression. Puis en plus, le meilleur moyen d'arriver en forme au jeu, c'est de s'être mis en confiance avant avec des bons résultats en Coupe du Monde, avec voilà de la confiance engrangée et des bons résultats. Et je pense que c'est en se concentrant d'abord sur la Coupe du Monde et le début de saison que j'arriverai à faire ça.
Clément Noël est en direct sur RMC dans le RMC Sport Show, vainqueur aujourd'hui à Val d'Isère. Les Jeux Olympiques, on en parle, ça commence le 4 février, dans deux mois on y sera déjà. Des JO qui ne te plaisent pas tant que ça, là, j'ai lu ça ce week-end. La Chine, ça te fait pas rêver pour aller disputer ces JO?
Non, ça me fait pas rêver. Après, moi je suis pas un grand opposant politique ou je ne sais quoi. Simplement, je constate juste que ça fait deux fois de suite qu'on va en Asie, dans des pays qui n'ont pas une grosse culture du sport de neige et du ski, et avec des horaires de retransmission qui sont vraiment compliqués pour nous en Europe.
Ce
et
sera la nuit, hein.
Et du coup, c'est surtout ça qui m'enchante pas, c'est la visibilité qu'on aura qui sera réduite par rapport à ça, et puis aussi le fait qu'il n'y ait pas forcément la passion de notre sport là-bas. Il n'y a pas forcément la culture et du coup c'est forcément un petit peu moins sympa de faire les courses. En tout cas à Pyeongchang c'était un peu ça que j'avais ressenti. Et là, avec la crise sanitaire, j'imagine que ça sera encore un peu moins bien.
Clément, parlons d'un truc un peu plus sympa, en tout cas qui peut t'enchanter, c'est cette victoire donc d'aujourd'hui dans le slalom. Et tu égales un record, celui de Jean-Baptiste Grange. On imagine que ça te fait chaud au cœur et que tu te dis bah il faut aller toujours battre et pousser ces records un peu plus.
Bah, je pense pas forcément aux chiffres, aux records ou quoi que ce soit. Il y a des skieurs français qui ont beaucoup plus de victoires que moi et qui en auront toujours beaucoup plus que moi. Mais moi, ce que je veux juste, c'est continuer à faire mon chemin. Puis gagner des courses, c'est vraiment un truc qui me plaît bien. C'est vraiment très sympathique. Donc si je pouvais continuer à me faire plaisir à ce qu'il y a un bon niveau et puis à être dans le combat pour les podiums et les victoires, moi je signe.
Merci beaucoup en tout cas Clément Noël d'avoir été en direct ce soir sur RMC. Bravo encore pour cette magnifique victoire à Val d'Isère. Et puis bah,
merci.
À très vite pour fêter d'autres victoires et sur cette route des Jeux Olympiques où on espère te voir briller. À bientôt Clément.
J'espère. Merci, à bientôt.
Merci
salut.
Beaucoup. Merci. Salut Clément. 19h41, le RMC Sport Show continue en direct jusqu'à 20h avec Maryse. Ensuite ce sera l'after foot, le match. Avec Nicolas Jamin ce soir, notre invité dans un instant, Oussem.
Cléopâtre Darleux, gardienne de but de l'équipe de France de handball. Les Bleus du Hand ont démarré leur mondial. Elles ont très bien démarré. On va voir avec Cléopâtre quels sont les objectifs des Bleus.
Et puis on parlera rugby avec ce premier week-end de Coupe d'Europe qui s'achève. Les bons et les mauvais élèves. On fera le point avec Jeff Paturo. Castres, sera-t-il un bon ou un mauvais élève? On peut en parler dès maintenant avec Wilfried Templier qui commence ce match face au Harlequins en ce moment même, Wilfried.
Mauvais pour l'instant parce que il menait 11-10 les Castrés, la pénalité de Smith il y a de cela quelques minutes, la demi-ouverture de Harlequins est à l'instant sur une offensive des trois quarts, c'est le troisième in-centre, le surpuissant Alex Dombrand qui perce la ligne Castrés dans les 22 mètres et va aplatir entre les poteaux. Il y a une transformation face au poteau pour Smith à venir, mais les Harlequins prennent les commandes dans ce match. 15 pour les Anglais, 11 pour les Castrés. Normalement, ça devrait faire 17-11 sans problème si Smith met cette transformation face au poteau. On joue la 52e minute. Attention, les Anglais sont devant. Ça y est, c'est parti, c'est passé. 17-11 pour aller à le Quincy ici à Castres.
Merci Wilfried, on se retrouve dans un instant. On a reçu beaucoup de messages sur la F1 ce soir, sur le Direct Studio, sur l'hashtag RMC Live. Un message de T800 qui m'a fait rire. Il a dit Hamilton, donc n'a pas eu son 8e titre, n'égalera pas notre Ogier national.
Ah oui.
Sébastien Ogier sacré il y a une semaine ou deux, 8e titre en WRC. 19h43, le RMC Sport Show continue.
RMC Sport Show.
Oussem Moussaïef, Thibaut Jean-Grand.
Avec Maryse Evangépé, on est en direct jusqu'à 20h comme tous les dimanches soirs pour revenir sur le meilleur de l'actu omnisport du week-end. Ensuite, Oussem, à partir de 20h, ce sera
l'after foot autour de Nicolas Jamin et Nicolas Villas.
Dans un instant, l'invité du RMC Sport Show, Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe de France de handball. Les Bleus en quart de finale du mondial vont-elles aller réaliser l'incroyable doublé? Jeux olympiques, championnat du monde, on lui posera la question, même si évidemment elle ne pourra pas répondre, mais on lui posera quand même. 19h46, un point rugby, c'est reparti pour cette Coupe d'Europe de rugby. Première journée de Champions Cup. Bonsoir Jeff Paturo.
Bonsoir, bonsoir Marie.
Salut,
bonsoir
Jeff.
À tous. Salut Jeff.
Rédacteur en chef rugby RMC. Ce qui est bien avec la Coupe d'Europe de rugby, c'est qu'on n'est pas dépaysé. La moitié des clubs français jouent. On n'est pas trop perdu. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'infos à retenir. Et ce
même
soir,
tous les clubs français jouent parce qu'il y en a 8 en Champions Cup et tous les autres en Challenge européen. C'est pour vous dire, n'importe qui joue la Coupe d'Europe.
Et n'importe qui peut se qualifier.
Agent joue la Coupe d'Europe ou pas?
Ouais. Agent, sauf qu'ils sont un pro des deux maintenant. Oui, l'année dernière, la Coupe d'Europe. L'année dernière. Ah, puis c'est ça, même.
Beaucoup d'infos.
Le top 14, ça
a plus d'importance. Quand même, le rugby, quand même.
L'essentiel à retenir, alors, c'est maintenant dans le RMC Sport Show. Jeff, tiens, on va rappeler déjà que ce format de Coupe d'Europe, pour bien tout comprendre et tout analyser.
Tout le monde peut se qualifier.
Le format a changé. Enfin, nous rappelle ce qu'on a eu, mais.
C'est deux poules de 12 clubs. Poule A, poule B. Après des huitièmes de finale, les 8 premiers de la poule A et les 8 premiers de la poule B sont qualifiés. Huitième de finale, aller-retour. Quart de finale, demi-finale, match sec. Finale à Marseille, si tout va bien, puisque en cas de problème, notamment du Covid, il n'y a pas de match reporté, c'est match perdu.
Ah oui, c'est pas mal. Le règlement est pas mal.
Marie, t'as pris des notes comme ça. Demain, tu pourras essayer de réexpliquer à Vincent Moscato lui-même.
Je vais expliquer le vendredi. Il a l'air de comprendre.
Je crois que le vendredi, il dit qu'il comprend tout.
Oui,
mais
c'est vendredi. C'est le même du vendredi. Oui.
Le lundi, c'est pas la même chose. Alors, on le disait avec toi, on va revenir sur cette première journée. On démarre par quoi? Tu veux démarrer par quoi? Les bons, les mauvais élèves? Les bons.
On va positiver, non?
Allez, les bons élèves, c'est parti. C'est avec toi, Jeff.
Les bons, les joueurs du Racing 92, qui étaient un petit peu au creux de la vague, c'est le moins qu'on puisse dire en top 14, avec trois défaites consécutives ces dernières semaines et qui ont réalisé tout simplement une démonstration vendredi soir chez Northampton, le troisième du championnat anglais, 45-14, bonus offensif, triplé de Venceslas Loré, bref, une belle soirée pour les hommes de Laurent Travers. Le lendemain, le Stade Toulousain contre une équipe diminuée de Cardiff, puisqu'on rappelle qu'il y avait des cas de Covid, qu'ils n'ont pas pu aligner tous leurs meilleurs joueurs, les joueurs gallois. Et cette fois, victoire du Stade Toulousain assez largement aussi, 39-7, pour Antoine Dupont et consort Dupont, le meilleur joueur du monde. Si vous ne l'avez pas suivi, c'est que vous avez vraiment fait votre radio ces derniers jours. Et le dernier bon élève, c'est La Rochelle aujourd'hui, victoire 20-13 dans la douleur contre Glasgow. Malgré un début de match compliqué, la vraie mauvaise nouvelle, c'est la blessure d'Arthur Rottier, l'ailier qui s'est gravement blessé à la cheville, qui pourrait être absent à un bon moment.
On n'a pas encore les examens médicaux.
Encore,
oui. Thibaut.
Oui.
Qu'est-ce que tu penses des perdants,
Thibaut était parti, là.
Qu'est-ce que tu penses des perdants? Parce que, oui, moi, il
révèle la finale à Marseille.
Il y a une équipe. Je le vois avec son stylo, il est en train de faire les calculs sur combien de matchs joués en quart de finale, huitième de finale.
Vous voyez ce que c'est un collègue en or? C'est que je suis absolument pas du tout en train de vous écouter. Il essaye quand même de me sauver. Oussem, merci. Quels sont les perdants ce week-end?
Bonjour, moi, c'est Jeff Paturo.
Bonjour, enchanté. Quels sont les perdants ce week-end?
Les perdants,
il y a un gros perdant.
Ouais, un gros perdant, c'est l'Union Bordeaux-Bègles qui s'est incliné à domicile contre Leicester hier. Défaite de 3 petits points, 16 à 13 pour l'UBB, leader du top 14 qui affrontait le leader du championnat anglais avec 9 matchs et remporté 9 matchs toute compétition confondue, en tout cas 10e match, je vais y arriver, pour les Anglais de Leicester, les Tigres qui sont invaincus, qui ont réalisé une grosse opération, notamment grâce à leur ouvreur George Ford, l'ouvreur international de cette équipe. Et pour l'UBB, ça commence mal. On rappelle que cette équipe girondine était demi-finaliste la saison dernière, qu'ils avaient perdu contre le Stade Toulousain. C'est pas vraiment le départ idéal pour Christophe Furios, mais la meilleure équipe a gagné, l'analyse du manager.
Il nous a manqué de jouer un match complet, quoi. Un peu à l'image de la semaine, pas fait une bonne semaine, avec des mecs qui sont arrivés que jeudi, puis ils sont pas là. Ben voilà, donc aujourd'hui, la meilleure équipe a gagné, j'ai absolument pas de regrets, quoi. C'est ça que je veux dire, quoi. On s'est pas bien entraîné, les conditions de travail pas bonnes, avec des terrains fermés, puis on a fait du synthétique, puis on a fait. Enfin, ça veut dire, c'est de l'enfumage, c'est des excuses, tout ça. En partie vrai.
De l'enfumage. Hein.
Ouais. Il l'utilise souvent, le terme enfumage.
Ouais. Vous demandez un jour à Wilfried Tampi de vous faire une imitation de Christophe Furios à Belletto. L'autre grand perdant de ce week-end, c'est Clermont. Défaite à domicile pour les Auvergnats, 23-29 contre les Irlandais de l'Ulster. C'est pas du tout une bonne opération pour les hommes de John O'Gibbs qui avait commencé le match de manière catastrophique, qui sont revenus à 20-19 et qui ont malheureusement craqué en fin de rencontre. Bon, pour Montpellier, le Philippe Saint-André, notre ami, c'était malheureusement couru d'avance, puisque PSA avait fait un peu tourner son effectif pour se concentrer sur le top 14 et le MHR est troisième en championnat. Il y a malgré tout des bonnes nouvelles. Le retour de Guirado sur le terrain, de Galetier, Kélian Galetier qui était capitaine. Et aujourd'hui, le Stade français s'est pris une petite raclée au Connard, 36-9. Là aussi, il y a eu du turnover. Mais c'est vrai que le grand perdant de ce week-end, c'est l'UBB contre le leader du championnat anglais.
Merci beaucoup, Jeff.
Bonne journée.
Merci.
La semaine prochaine. Ouais, on enchaîne.
Merci, Jeff. C'est comme la FIA en Formule 1, on demandait de simplifier un peu le règlement si tu peux aussi.
Oui, la Coupe d'Europe m'a pas écouté, donc c'est pas grave.
Je t'écoute et je t'écouterai en podcast d'ailleurs. J'écouterai cette émission en podcast comme c'est.
Tu vas découvrir.
Et tu prendras des notes.
Exactement.
Voire même, on te fera faire 30 lignes. Ouais. Tu vois.
Mais ce qui est bien, si je réécoute cette émission en podcast, et je pourrais bien entendre ce que répondra à nos questions Cléopâtre Darleux.
L'invité du RMC Sport Show.
Et en podcast, on pourra couper le petit moment où Daniel en régie n'a pas envie le jingle. Bonsoir Cléopâtre Darleux.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être en direct sur RMC, gardienne de but de l'équipe de France, qualifiée d'ores et déjà pour les quarts de finale du Mondial en Espagne, sachant qu'il reste un match du tour principal demain à jouer contre la Russie. Cléopâtre,
je sais pas si on peut dire la Russie, parce qu'en fait, c'est pas la Russie officiellement. On peut dire la Russie ou pas?
Bon, on dit la Russie. Cléopâtre, tu dis
on
la Russie.
On peut dire la Russie.
C'est la bannière neutre, quoi.
C'est ça.
La France qualifiée donc pour les quarts de finale après la victoire d'hier contre la Serbie en 2019, il y a deux ans, Cléopâtre. Vous êtes éliminé au premier tour. Est-ce qu'il y a une espèce d'affront lavé? Est-ce que ça, vous l'aviez en tête au moment de démarrer cette compétition?
Oui et non. C'est vrai qu'on est. Il y a eu, c'est vrai, en 2019, une compétition compliquée, mais depuis, on a fait un très bel Euro. On a perdu en finale, mais voilà, une médaille d'argent et la victoire aux Jeux Olympiques. Donc, l'équipe, je pense, y a pensé un petit peu, mais au final, il y a eu de très belles choses entre-temps.
Cléopâtre, beaucoup de changements dans le groupe France, un groupe pas totalement renouvelé, mais quand même quelques figures du hand féminin qui ont décidé d'arrêter leur carrière internationale. Je pense à Siraba Dembélé, Amandine Lénaud et Alexandra Lacrabert. Et comment allait l'ambiance avec ce nouveau mix et cette nouvelle équipe de France?
L'ambiance est très bonne. C'est vrai qu'il y a un mix entre les anciennes, nous, les moyennes qui deviennent les vieilles, plus des petites jeunes qui arrivent avec plein d'énergie et il y a toujours une très bonne ambiance. C'est des filles, même les jeunes qui arrivent, c'est des filles qu'on connaît parce que enfin il y en a plusieurs avec qui personnellement je joue en club à Brest où on se rencontre dans le championnat de France. Donc l'équipe vit super bien et ça se voit parce qu'on a de très bons résultats depuis le début de la compétition.
Marie-Zévan GP.
Oui, puis le passage de témoin s'est très bien passé puisque ça avait déjà commencé aux Jeux Olympiques de toute façon. Mm-hmm. Et on a l'impression que vous avez acquis une maturité supplémentaire avec ce titre olympique. On vous sent très très sereine depuis le début de cette compétition.
C'est vrai qu'on a... On a acquis, je dirais, beaucoup d'expérience. C'est une équipe qui, depuis 4 ans, a vraiment de très, très bons résultats, qui est pratiquement médaillée à chaque compétition. Donc c'est vrai qu'on a des filles de plus en plus expérimentées. Donc, on arrive à la compète avec des filles qui ont beaucoup de sélections comparées à d'autres équipes où il y a beaucoup de changements. Donc, c'est vrai qu'on a très bien débuté la compétition. On a gagné tous nos matchs. Après, il y a des matchs où on a un peu moins bien joué, mais on a toujours réussi à les gagner.
C'était chaud contre la Serbie, on peut le dire.
C'était très chaud contre la Serbie. Mais après, c'est vrai que dans le Money Time, on a réussi à faire la différence et justement jouer peut-être sur notre expérience.
Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe de France de handball, est en direct sur RMC. Le championnat du monde qui se poursuit demain pour l'équipe de France et qui se poursuit toujours aussi bien défensivement. La gardienne que tu es, Cléopâtre, doit apprécier. Comment vous avez fait, comment le staff et l'équipe a fait pour réussir encore à augmenter le degré de performance qui était déjà une force cet été à Tokyo?
C'est vrai que sur cette compétition-là, la défense est vraiment impressionnante, en tout cas sur les 5 premiers matchs. Pour nous, j'avoue que pour les gardiennes, c'est un régal d'être derrière, parce que il y a pas beaucoup de tirs, donc au final, notre travail est assez facilité par la défense. Comment on a fait pour s'améliorer encore? Franchement, je sais pas, mais c'est vraiment impressionnant. En tout cas, on met beaucoup d'activité. On attaque les attaques, je dirais. Donc, c'est ça qui fait notre force.
Cléopâtre, la question que tous les sportifs et sportives détestent qu'on leur pose lorsqu'ils sont dans une compétition, est-ce que vous allez aller au bout?
Vraiment une question de journaliste.
Mais on en a envie. On a les capacités parce qu'on a vraiment une équipe très performante avec vraiment un mix entre des anciennes et des jeunes. Donc, on en a les capacités et j'espère vraiment qu'on ira au bout.
Merci beaucoup, en tout cas, Cléopâtre Darleux, d'avoir été ce soir en direct sur RMC. On vous suit sur RMC avec Nicolas Paul Orsi, notre envoyé spécial sur place pour la suite de ce championnat du monde. À bientôt et bon match demain contre la Russie.
Merci, à bientôt.
À bientôt, Cléopâtre. 19h56, Oussem, Maryse, ainsi s'achève le RMC Sport Show ce soir. Dans un
c'est
instant.
Très riche en invité.
C'est l'after qui arrive avec Nicolas Jeannin.
Salut Maryse. Salut Thibaut. Salut Oussem.
Salut à tous.
L'after arrive de 21h à minuit, comme tous les soirs, vous en avez l'habitude. On va faire un appel avant match. Avant ce Paris Saint-Germain, AS Monaco, bien sûr. On va parler de Paris, du milieu de terrain parisien, de la connexion Messi-Mbappé. On va parler de Monaco. La SM est-elle lancée? 0 défaite en 5 matchs en Ligue 1. Et puis, dans un instant, dans moins de 2 minutes, vous aurez la composition, les compositions officielles parisiennes et monégasques. Restez avec nous. Ouais. C'est tout chaud. À tout de suite.
C'est officiel. Juste, on va faire un tour sur le rugby. Castres, Harlequins, le premier week-end de Coupe d'Europe qui s'achève. Le point avec Wilfried Templier.
Un gros quart d'heure à jouer ici. Ce sont toujours les Anglais qui sont devant. 17 à 11, 6 points d'avance pour les Harlequins, notamment avec l'essai de Dom Brandt. Ils ont laissé passer l'orage. Les Castrés ont eu 5 minutes de présence dans les 22 mètres anglais, mais n'ont pas su marquer pour l'instant. Les Anglais sont devant, 65e minute, 17 à 11 pour les Harlequins ici à Castres.
Et la suite, c'est dans l'after. Merci Wilfried, bonne soirée. Oussem, on se retrouve la semaine prochaine.
Exactement.
Une excellente soirée sur RMC. L'after arrive. A plus, ciao.
RMC, l'after foot.
Le match.